Radio Okapi.
Radio Okapi.
Étoile.
Étoile.
Bon après-midi à tous, vous êtes à l'écoute de la fréquence de la paix. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce nouveau numéro du magazine Étoile. Nous recevons aujourd'hui une femme, une consoeur journaliste. Aujourd'hui, elle dirige ou co-dirige, je devrais dire, la délégation générale de la francophonie. Madame Nancy Odia, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez été récemment nommée déléguée générale adjointe à la délégation générale à la francophonie.
Exact.
DGF en sigle. Quel est le rôle de cette délégation, de cet organisme?
C'est en fait la structure gouvernementale qui a la charge de toutes les questions liées à la francophonie. En fait, disons que c'est le cabinet du ministère de la coopération qui ne s'occupe que de la francophonie. Ça permet ainsi au pays d'être efficace concernant cette question-là.
Alors, quel sera le rôle de Nancy Odia, puisqu'elle est déléguée générale adjointe dans cet organisme?
Vous savez, le choix porté sur ma personne n'est pas hasardeux. Je suis du domaine du journalisme et de la communication. Notre pays va organiser en 2021, juillet-août, les 9e Jeux de la francophonie. Il faut qu'un travail intense de communication soit battu de manière à rendre visible le pays sur la scène internationale et que le succès de cet événement soit remarquable. Voilà pourquoi ils ont dit il faut absolument quelqu'un qui maîtrise la communication à ce poste.
La tête de
la délégation, il y a deux femmes.
Oui.
Moi, je veux beaucoup faire de la visibilité. Je ferai un peu de communication également. Il y aura de l'administration, beaucoup d'administration, parce que je suis en charge de l'administration de la DGF. Mais je ferai beaucoup de communication et un grand travail, donc je n'aurai pas de repos.
Alors, on aura justement l'occasion de revenir sur les Jeux de la francophonie, les 9e, qui se tiendront, la 9e édition, si je ne me trompe pas, qui se tiendront ici à Kinshasa l'année prochaine. Nancy Odia, c'est aussi une identité vestimentaire. C'est cette journaliste cheveux ras, c'est cette journaliste à la cravate surtout. C'est un style que vous avez voulu créer?
Oui, sur recommandation de mon réalisateur à l'époque, qui a pensé que avec mon timbre vocal assez rock, le style masculin attirerait bien l'attention du public. C'est ce qui a été fait. Mais après, quand on vous remarque, il faut donner du contenu. On remarque une petite jeune fille à la cravate, oui, mais elle raconte quoi? J'ai dû travailler l'extérieur, l'intérieur également. Beaucoup de lectures, beaucoup de recherches, beaucoup de sacrifices, tout le temps sur le terrain. Donc, toute une histoire que nous allons raconter.
Exactement. Alors, Nancy Odia, vous êtes avant tout journaliste. Vous êtes née ici à Kinshasa. Vous êtes un produit de l'IFACIC, l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Vous avez fait politique extérieure. Mais c'est très jeune, Nancy Odia, me dites-vous, que vous avez commencé à travailler. C'est à l'âge de 18 ans.
18 ans,
que vous êtes lancée dans l'enseignement parce que votre père y était.
Oui. Et après mon diplôme d'État, j'ai fait le lycée Bossangani, je suis une ancienne de là. Après le diplôme d'État, mon père m'a posé cette question, est-ce que Nancy, tu peux travailler? J'ai dit, ça dépend du travail en question. Il m'a dit, est-ce que tu peux enseigner? Parce que j'ai vu que tu avais des bonnes notes en français pendant tout le temps où tu étudiais. Alors, si on te donne quelques notions de pédagogie, est-ce que tu pourrais préparer la matière et enseigner? J'ai dit oui, j'ai commencé à travailler à l'âge de 18 ans, donc je portais le panier.
Comme professeur de français?
Professeur de français, je mettais le panier comme une dame et j'allais enseigner à des élèves de la première année. C'était une école privée de Bandalungwa. Les enfants n'avaient pas un très high level.
Un niveau très élevé.
Voilà. Mais alors, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'engagement dans la chose, j'ai pu relever les niveaux de beaucoup parmi eux. J'ai même donné des cours à domicile pour rien du tout. Et je les faisais juste parce que je voulais voir un résultat. Et
un changement
en fait,
dans ces enfants-là.
Oui, voilà. C'était passionnant, simplement. Passionnant. Ça m'a pris comme ça 2 ans.
Je le vois et je le vois dans vos gestes que ce travail vous a effectivement vraiment passionné. Mais pourquoi est-ce qu'à un moment donné, vous l'arrêtez finalement pour aller à l'IFACIC?
J'ai commencé les études à l'IFASIC. Là, je n'avais pas de diplôme, il fallait quand même que j'aille à l'université. Initialement, je voulais faire la médecine, mais il fallait aller au campus, c'était trop loin. J'ai grandi à Kitambo, Jamaïque. Des problèmes de logistique s'est posé, donc j'ai dû enseigner d'abord et mettre un peu d'argent de côté. Avant de commencer l'université, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a permis d'intégrer une radio. J'ai commencé à faire le journalisme avant même d'aller à l'IFASIC. Donc j'avais un peu de temps pour la radio, les avant-midi pour l'enseignement. Je parle de travail de journaliste, mais c'était juste un apprentissage. J'étais stagiaire à l'époque.
Vous apprenez donc les béabas du métier. Voilà. Vous avez 20 ans, vous intégrez la première radio communautaire de Kinshasa. Après votre stage à Réveil FM, vous avez intégré aussi l'agence congolaise de presse, où vous y êtes resté pendant 6 mois.
Oui, ça c'était un stage académique. Donc j'ai fait mon stage envoyé par l'IFASIC, j'ai fait mon stage et après j'ai voulu en apprendre un peu plus sur le style d'agence. C'est pour ça que j'ai continué quelques mois et un de responsables des radios Réveil FM m'appellera par la suite pour m'informer qu'il y avait une station de télévision qui allait voir le jour et qu'on recrutait. Je suis allé immédiatement et c'était Horizon 33 à l'époque.
Et là, vous êtes présentatrice de journal télévisé.
Oui, pas immédiatement. On a quand même dû passer un test. On nous sélectionne. J'avais déjà une petite expérience avec la radio. J'avais l'habitude du micro. Ce qui fait que je passe mon test. On m'accepte immédiatement. Et nous faisons des présentations à circuit fermé. Et lorsqu'il était question de lancer le journal télévisé, nous avions été les premières à présenter les journaux, tous les journaux télévisés de Horizon 33. J'ai pu citer les consoeurs avec qui j'ai travaillé.
Bien sûr.
Sonia Mungalu, qui nous suit en ce moment. Titi Kasongo, nous étions les 3 présentatrices de journal télévisé de Horizon 33 à cette époque-là.
Et j'ai retenu de vous, Nancy Audia, cette phrase quand on préparait cette émission. J'étais jeune et ambitieuse, je n'ai pas hésité à aller faire des reportages à pied, même dans des conditions difficiles.
Oui, extrêmement difficiles. Moi, je m'arrangeais pour être là avant tout le monde. Et j'ai quitté également après tout le monde. Et j'étais là tous les jours, même le dimanche. Je ne pouvais pas venir et rentrer chez moi, la conscience tranquille, si je n'ai rien fait. Par exemple, s'il n'y a pas de reportage ce jour-là, moi, je vais faire un tour. Je prends un caméraman et dis, on va circuler dans la ville et voir un peu ce qui se passe. J'allais couvrir des plénières chaudes à pied au Parlement. Et il y a eu pendant cette époque-là beaucoup de contestations de la part de l'opposition, des étudiants qui manifestaient tout le temps.
Oh non, quelle année là?
Nous sommes à Horizon 33, 2002. Mmh. Oui. 2002, il y avait beaucoup de contestations des mouvements étudiants, comme maintenant là. Mais à l'époque, ça a tiré énormément. Vous avez 3 jours où tout est paralysé. 22 ans à l'époque. À Kinshasa, une fille de 22 ans est encore sous tutelle
de ses parents.
Voilà. Et un parent qui voit sa fille de 22 ans se lever alors que ça tire dans tous les coins. Et elle se lève, elle dit, papa, je vais travailler. Mon père dit, mais attends, c'est quoi ça? J'ai défié mon père. Je dis, non, je suis journaliste, c'est vrai que je suis ta fille, mais je dois sortir, c'est ça mon travail.
Je dois couvrir
les informations. Je dois voir ce qui se passe. Oui, voilà. Oui, mais parfois tu es là avec ta caméra, ça tire, tu te couches. Je ne réalisais pas que c'était un risque énorme que je prenais. Et tu arrives le soir, il n'y a pas de journaliste, il y a un caméraman, vous montez ces éléments-là, et tu présentes le journal. J'ai présenté ces journaux-là pendant 3 jours, alors que les autres chaînes de télévision ont présenté, ont diffusé des journaux préchauffés. Qu'est-ce qu'on dit? C'est pas du préchauffé, du chauffé carrément. Et nous avions fait du direct. Hein. Au bout de ces 3 jours.
3 jours successifs, hein?
Oui. Ah, mais je sais, je suis venu une fois et j'ai passé 3 jours au travail. Je ne suis plus rentré parce qu'il n'y avait même pas de moyen de déplacement. Je n'avais pas de véhicule, donc je suis arrivé une fois, difficilement, parce que il y avait de l'insécurité dans la ville. J'ai dormi à la rédaction pendant 3 jours et j'ai présenté les journaux télévisés. Et quand il y a eu une sorte d'accalmie, je me souviens, à l'époque, c'était le ministre Mova qui était à la tête du ministère de la Communication. Il a eu l'initiative de primer ceux qui avaient travaillé courageusement pendant ce temps-là et j'ai eu ce prix-là spécial de la prestation courageuse. Je ne comprenais pas ce que
ça représentait.
Oui, voilà. Mais c'est aujourd'hui que je me réalise, en fait, que si on me disait d'aller couvrir une manifestation où il y a de l'insécurité, je penserais à mes trois petits-enfants, je dirais.
Oh. Vous ne le ferez pas aujourd'hui?
Je le ferais, mais j'étais encore jeune. Je ne regardais pas trop autour de moi. Je regardais plutôt devant moi.
La carrière que vous vouliez voilà, tracer.
C'était juste ça.
La deuxième partie du magazine Étoile. Merci à ceux qui nous rejoignent. Nous recevons aujourd'hui Nancy Odia, déléguée générale adjointe à la délégation générale à la francophonie, femme journaliste aussi. Comme la plupart des étudiants de l'IFASIC, vous combinez donc le travail et les études. Mais après avoir obtenu votre graduat et ce face aux difficultés financières, vous décidez donc de ne pas poursuivre votre licence et de vous consacrer à 100% donc à votre travail. Et vous continuez donc là à travailler à Horizon 33. Mais en 2005, vous êtes approché par le responsable d'une chaîne de télévision et qui veut vous débaucher.
Oui, le patron de Congo Web TV qui m'a contacté parce qu'il avait apprécié notre façon de travailler en suivant nos journaux télévisés. Il voulait juste que je lui présente son journal. J'ai dit non. Après 3 ans passés à Horizon 33, je suis encore jeune, mais ils ont constaté mon talent. Petit à petit, j'étais chef d'édition et j'ai commencé à corriger des papiers parce que j'avais des petites
secrétaire
notions.
Secrétaire de rédaction.
Oui, pas encore oui. Officiellement, mais okay. Comme j'avais quand même des petites notions de grammaire, d'orthographe, j'ai corrigé les autres et j'ai appris le style. Je suis devenu secrétaire de rédaction.
Oui.
Alors, je lui ai dit, si je suis secrétaire de rédaction, monsieur le patron, si vous voulez de moi, nommez-moi directrice des informations. Il m'a dit, mademoiselle, vous êtes jeune et vous êtes une femme. Et vous êtes sûr que vous serez en mesure de diriger des jeunes, des hommes? Non, non, non. Je vous prends comme présentatrice et je vous donnerai un poste bien, mais pas celui des directeurs d'information. J'ai dit, monsieur, c'est ça ou rien. Finalement, il m'a pris à titre d'essai. Je suis devenue directrice des informations de Congo Web à l'âge de 20... Je n'avais pas encore 25 ans accompli. J'avais 24 ans. J'ai dirigé une rédaction d'une trentaine de personnes. La majorité étaient des hommes. Une expérience bien. Il y a beaucoup à raconter dedans aussi.
Oui, vous me dites que pour vous, c'était en fait une mise à l'épreuve.
Oui.
À la fois de vous-même et de votre patron aussi,
oui.
Peut-être.
J'ai oublié que j'étais une femme. J'ai oublié de prendre soin de moi physiquement. J'ai oublié que je devais être aussi coquette. J'ai travaillé comme un homme. J'ai travaillé de 7h à 21h. Tous les jours, même le dimanche, le jour de fête, les fériés, j'étais là. J'ai présenté des journaux télévisés pratiquement tous les jours, des émissions pendant une année. Et il y a eu du résultat parce que c'était une jeune rédaction qui venait de voir le jour. Nous étions toujours parmi les 3 meilleures rédactions de la place. Donc pour moi, et même pour mon patron, c'était un motif de satisfaction. Finalement, il m'a gardé tout le temps. Il ne m'a jamais bougé de là. Comme pour dire qu'il avait douté pour rien.
En de cette jeune femme qui voyait devant lui.
En termes de compétences, il n'y a pas de sexe en fait. On a tous le même cerveau, le même sang qui coule dans nos veines. Donc on mérite ou on ne mérite pas. Il n'y a pas de différence de sexe.
Et vous restez quand même dans cette rédaction pendant 5 ans. Hein?
Oui, oui. Exactement, j'ai presté normalement pendant 5 ans jusqu'à ce que nous ayons eu des élections, le toute première. Il y a eu de nouvelles institutions, les politiques vous remarquent à la télé, quand ils arrivent au pouvoir, ils vous contactent parce qu'ils veulent que vous offriez votre expérience, vous la mettez à leur service. Donc au début j'ai refusé les cabinets politiques, j'ai refusé la communication institutionnelle.
Mmh.
Mais finalement, j'ai été contacté cette fois-là par le ministre Raymond Tshibanda. Il me contacte par son parsec. Je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu. J'entendais parler de lui. Nul non plus ne m'avait jamais rencontré, mais il a apprécié mon travail.
Le travail que vous faisiez.
Oui, voilà.
Et vous dites que vous ne vouliez pas intégrer les cabinets politiques, hein, mais dans le cadre de votre travail, dans les émissions, les reportages que vous avez faits, on est souvent en fait, non seulement de l'actualité, mais aussi en contact finalement vraiment avec avec tout le monde, les hommes politiques, les sportifs, les artistes. Comment est-ce qu'on fait pour éviter et se dire là-bas je n'irai pas?
Non mais c'est ça dépend de ce qu'on veut. Moi je voulais travailler comme journaliste. Je ne voulais pas en fait détruire ma carrière. C'est vrai, le cabinet politique ça vous étouffe professionnellement. Vous devenez une sorte de bureaucrate. Hein. Dès le moment où j'ai rejoint le cabinet politique, j'ai senti moi-même que j'avais beaucoup régressé. Je parle du journalisme. Oui. Je n'avais pas beaucoup de temps pour faire de reportages. Je n'avais presque plus de temps pour les émissions ni pour les journaux télévisés parce que les affaires étrangères, c'est à l'étranger.
Oui. Vous m'avez dit toujours entre deux avions, on voyage beaucoup.
C'est terrible. Je me rappelle une fois, nous descendons d'un jet et nous montons dans un avion à Dili. Donc, je n'avais même pas le temps d'arriver ni d'échanger de valise. Donc, heureusement pour moi, je n'étais pas mariée, je n'avais pas d'enfant, je n'avais que ce travail-là. Et donc, j'avais beaucoup perdu quand même côté presse. Mais j'ai acquis énormément d'expérience en matière de diplomatie publique, diplomatie au développement. J'ai beaucoup appris.
Qu'est-ce que vous dites? Quel est le travail que vous faites pour votre chef en tant que conseillère à la communication?
Oui, mais il me dit, madame, je veux tout savoir. Vous faites tout. Nous voulons une communication agressive. Ce qui fait que je me dis, oh, monsieur veut faire de la communication agressive, donc il veut être vraiment présent. Vu. Je me suis donné à fond. J'ai travaillé pour que ce ministère soit toujours en première ligne dans les journaux télévisés, les radios, la presse écrite en ligne. J'avais une toute petite cellule de communication de 4 personnes, sans trop de moyens. Nous avons eu à organiser des sommets, gérer la communication des grands événements avec très peu de moyens, une bonne stratégie de communication, des plans détaillés. Et vous vous rendez compte que les résultats sont remarquables.
Ils sont probants. Mm-hmm. Alors Nancy Audia, 2008, une année marquante dans votre parcours. Vous avez participé au programme Edgar Morrow, qui est un programme du département d'État américain. C'est un programme d'échange d'expériences avec des journalistes qui viennent d'un peu partout dans le monde.
Oui, c'était en 2008, juste quelques mois avant que je n'intègre le cabinet. J'ai préparé ce programme pendant 45 jours. C'était pendant la période où s'organisait l'élection présidentielle aux États-Unis et la campagne électorale de Barack Obama. Une belle expérience. J'ai vu comment les bureaux de campagne s'organisaient dans 4 villes de 4 États. Un événement pour la communauté noire, pour nous, Africains à l'époque, voir un noir diriger la plus grande puissance du monde. Et on a eu à vivre ça, voir comment la presse américaine couvre ces événements. Il y avait beaucoup de sympathie envers le candidat noir. C'était un premier voyage pour moi, une expérience enrichissante et le début de beaucoup de choses. Je suis rentré et après apparemment c'était parti pour les avions. Ouais. C'était les États-Unis et après c'était le monde entier. Donc et voilà.
Comment est-ce que vous avez fait pour être retenu à ce programme?
Non, ça c'est l'ambassade des États-Unis, les USA elles-mêmes qui sélectionnent.
Non, vous postulez parce que voilà.
Pour ce premier
vous êtes
programme,
contacté, oui.
Oui, non, j'ai été contacté, ils ont vu eux-mêmes dans la presse qui ont bien travaillé et qui pourraient bénéficier du programme et ils m'ont appelé. Madame, nous avons choisi pour participer à tel programme. Préparez-vous, ce sera pendant telle période. Et voilà, c'était fait.
Donc vous êtes parti 45 jours, vous rencontrez les journalistes d'autres pays dans le monde.
Oui.
Ils viennent d'où? De quel pays?
Nous étions au nombre de 150.
Oui.
Donc quand je dis 150, c'est une centaine de pays.
Des Africains notamment?
Oui, des Africains, de l'Afrique, de l'Asie, de l'Europe. De partout à travers le monde. Il y a des pays dont je ne connaissais même pas l'existence, que j'ai découvert là-bas. Non, mais aujourd'hui, je peux dire que je peux aller partout. Je sais qui contacter, qui je peux appeler pour être issue. Ils vous parlent de leur culture. C'est également des échanges culturels où vous apprenez à vivre avec des personnes venues de différents horizons. Chacun a ses habitudes, les habitudes propres à son pays, les pratiques coutumières, la culture. Cet échange-là, c'est melting que vous vivez. C'est très, très, très enrichissant. Vous sortez de là. Quand vous rentrez, chez vous, vous avez une autre vision des choses. Aujourd'hui, je comprends parfaitement les gens pour avoir vécu ça. Et tu sais, te rendre compte que c'est vrai que nous sommes vraiment différents, complémentaires, mais différent. Et quand vous comprenez cette différence-là et cette complémentarité, ça vous permet de travailler dans n'importe quel environnement, mais dans des conditions de sérénité.
Vous avez dit que c'était des échanges culturels, vous avez visité des bureaux de campagne, vous avez été dans des rédactions. En tant que journaliste, quand vous comparez d'où vous venez et là où vous êtes, quel est votre sentiment? Vous regardez comment les autres travaillent, qu'est-ce que vous vous dites?
Bon, quand tu rentres, après avoir vécu ça, tu viens avec plein d'ambition, tu te dis « je vais changer les choses ». Tu viens, tu tentes, et puis après, quand ça suit pas, ça vous décourage un peu. Mais seulement, après avoir assisté à ce genre de programme, on vous dit toujours de vous faire un peu autonome. Par exemple, j'ai commencé à animer mon blog à l'époque, juste après cette expérience, j'ai voulu évoluer de manière individuelle, hormis le fait que j'étais membre d'une rédaction et que j'étais directrice d'information. J'ai dit non, je dois maintenant me prendre également en charge. On vous apprend également à développer le côté entrepreneurial. Vous développez les compétences en leadership, en management. Vous apprenez beaucoup de choses. On vous prépare en fait pour gérer. Moi, j'étais motivée quand on m'a dit que beaucoup de chefs d'État sont passés par ce genre de programme. On me dit, madame, vous savez que Tony Blair est passé par ce programme? Est-ce que vous savez que telle personne était ici en telle année? Je me dis, mais voilà, je suis passé par ici, donc peut-être que ce sera moi la prochaine présidente de la République
démocratique du Congo.
Donc, tu rentres vraiment avec des ambitions telles que tu t'es dit, mais voilà, je vais changer le monde. Mais après, c'est un système qui est déjà implanté. C'est pas du jour au lendemain que vous allez tout chambouler. Mais j'ose croire que petit à petit, avec la bonne volonté, les choses pourraient aller s'améliorant.
Troisième et dernière partie du magazine Étoile, nous recevons aujourd'hui Nancy Odia, déléguée générale adjointe à la délégation générale à la francophonie. Alors, on a parlé de votre expérience au cours de cette émission. Vous nous parliez de ce programme Edgar Moreau, auquel vous avez participé, programme du département d'État américain. Vous rentrez à Kinshasa, vous démissionnez de Congo Web et vous intégrez maintenant la RTNC, la Radio-Télévision Nationale, où vous présentez un magazine politique.
Depuis 2010, je suis à la RTNC comme présentatrice du journal télévisé et aussi de magazine politique en général, mais précisément de Son de Cloche, une émission de débat contradictoire. Nous y parlons prioritairement de la politique.
Au ministère des Affaires étrangères, on l'a dit, vous êtes dans la communication institutionnelle, vous organisez les sommets des organisations sous-régionales comme la SADC, le COMESA, la CIRGL, la francophonie. Qu'est-ce que ça vous demande en termes de temps?
Ouf, quand des gens vous annoncent que vous allez abriter un sommet, ça vous prend une année, même deux ans de préparation. Vous avez des commissions qui sont mises en place et souvent j'avais la charge de la commission communication. Et donc, ça vous prend énormément de temps en termes de réunions, en termes de contacts, en termes d'organisation. Et plus vous vous approchez de l'événement, plus vous vous rendez compte que ça devient tendu. Vous passez des nuits au bureau. Vous devez vous occuper de tous les journalistes. Par exemple, pour le sommet de la SADC, nous avons eu à accueillir un peu près de 1500 journalistes. Et pour le sommet de la francophonie, c'était encore pire. On attendait plus de 6000 délégations de journalistes. Et donc, c'était un très, très grand travail qui a été abattu pendant ce temps.
Et quand on arrive au jour J, comment on se sent?
Le jour J, je me dis qu'il y a déjà beaucoup qui est fait. Quand on est bien préparé, on ne court plus. C'est-à-dire quand on observe les choses se faire. Généralement, il y a les politiques qui reprennent les choses en main. Quand vous devez accueillir des chefs d'État, et après il y a la sécurité qui entre en ligne des comptes, vous êtes un peu géré. Mais sinon, le grand travail est fait en amont.
En amont.
Oui, déjà, c'est bon. Quand le jour de l'organisation, moi personnellement, je respire.
Vous respirez, vous sentez beaucoup mieux, on est moins stressé, c'est ça?
Voilà.
Alors Nancy Odia, vous restez une femme ambitieuse, nous sommes en 2010, il y a une position au niveau de la SADC qui est ouvert, un poste, je devrais dire, qui est ouvert, et vous dites, voilà, je vais prétendre à ce poste-là, et je vais me présenter comme candidate.
Oui, en 2010, justement, il y a vacance de poste. Déjà, on vous présélectionne au niveau national. Il y a eu une centaine de candidatures pour ce poste-là. Nous avons été présélectionnés, donc 3 pour le poste. Et à la SADC, il y a 15 membres. Donc vous faites 3 fois 15, ça vous fait 45 candidats pour le même poste. Oui. Parmi les 45, on présélectionne encore et on en retient 5. J'ai été retenue parmi les 5, je suis allée. J'ai passé l'interview et ça n'avait pas donné la première fois.
Vous vouliez changer, vous vouliez quitter le ministère des Affaires étrangères pour aller dans un poste plus important, une position plus importante,
oui,
on va dire.
Oui, exactement. Malheureusement, ça n'a pas tenu. Le poste a été donné à une Congolaise également, Madame Lukundula, qui a eu à travailler là-bas pendant près de 8 ans. Et donc, au moins, la RDC était représentée. Et moi, je l'avais ratée.
Ça restait donc une fierté pour le pays d'être représenté. Et donc, dans l'entretemps, Nancy Odia, vous continuez votre travail à la RTNC comme journaliste et puis au ministère des Affaires étrangères.
Oui, j'ai continué mon travail comme d'habitude. Bon, j'ai toujours cette habitude-là de ne jamais faire la même chose tous les jours pendant longtemps. Après 3-4 ans, je me dis toujours, mais bon, j'ai déjà fait ça, je dois faire un autre pas. Ça, c'est moi. Et donc, quand je joue aux affaires étrangères, même mon chef le fait, il le sait, je regarde toujours à gauche, droite, est-ce qu'il n'y a pas eu d'opportunité qui pourrait me permettre d'avancer encore. Je suis contente de ma position, mais je veux avancer, aller plus loin. Et donc, c'est comme ça que je continue à chercher, jusqu'à ce que j'arrive quand même à trouver ce lien de l'ambassade des États-Unis qui nous demandait de postuler pour être retenu comme participant au programme Uber en frais.
Ça, on est en 2014.
Après le raté de la SADC, le premier raté, j'ai continué ma vie de tous les jours, normalement.
Et donc, 2014, vous allez participer à ce programme d'Hubert Humphrey, toujours du département d'État américain. C'est un programme d'échange, vous dites, avec différentes catégories professionnelles, mais un programme beaucoup plus intense que le premier auquel vous aviez participé, puisque là, vous partirez pendant 2 ans quand même.
Oui, 2 ans, oui. Ah oui, mais après, le premier programme, j'avais passé en français. J'avais un interprète. Oui. Mais le deuxième, il était complètement en anglais, donc il me fallait améliorer mon anglais. J'ai fait Cali, j'ai fait le TOEFL, j'ai passé l'interview devant une quinzaine de personnes à l'ambassade, et finalement, tout ça a été envoyé à Washington, les départements d'État ont approuvé, mais comme je n'avais pas satisfait au TOEFL, j'ai dû aller 6 mois plus tôt à l'université de Davis, en Californie.
Le TOEFL, c'est le test de niveau en anglais, qu'il fallait avoir.
Oui, voilà. Donc, j'ai passé encore 6 mois à l'université de Davis, en Californie, rien que pour l'anglais, puis après, l'anglais, on nous a amené à l'université de Maryland où j'ai commencé mon programme pendant 1 année et demie. Comme vous l'avez dit, c'était intense. Il y a une partie académique et une partie qui est basée sur l'échange. Donc, c'est des cours tous les jours.
C'est des cours de quoi?
Moi, j'avais choisi la communication en ligne. J'ai choisi 8 cours que je prenais liés à la communication. Et à part ça, il y a des conférences, des ateliers auxquels tu dois prendre part. Tous les jours, presque chaque semaine, et après la première année d'études et de conférences, vous avez l'autre année qui consiste à la mise en pratique. Là, il faut passer des stages. Et donc, j'ai dû faire un stage à la Banque mondiale, un autre avec Human Rights Watch, un troisième stage au bureau de communication du département d'État. Et donc, au bout de ce programme, malheureusement, j'ai toujours dit que c'était un peu injuste. Je disais ça à ma coordonnatrice. J'ai dit, on passe 2 ans et après on rentre, on n'a pas de diplôme, on a un certificat. Mais le certificat est signé par le président lui-même, Barack Obama. Mmh. Et le ministre, le secrétaire d'État, John Kerry. Ah, j'ai dit toujours, c'est un certificat. J'ai passé 2 ans, j'ai eu un certificat, mais il est signé par le président lui-même.
De la main de Barack Obama. Oui.
Voilà. Mmh. Donc, un programme intense, également prestigieux. Je me disais que après le programme Uber en frais, les choses ne seraient jamais
comme avant.
Oui, mais tu rentres, tu te dis, mais j'ai un papier qui est signé par Barack Obama. J'ai fait des stages, j'étais au département d'État. Je rentre, mon pays va me récompenser, quand même va reconnaître ce mérite. Mais après, j'ai fait la même chose.
C'est un peu la déception.
Un tout petit peu, mais pas beaucoup. Mais j'étais quand même contente 2 ans plus tard de revenir et de retrouver mon bureau vide. J'avais une mise en disponibilité, mais aux affaires étrangères, je suis rentrée, j'ai repris mon travail, tout en cherchant toujours un peu plus. J'ai regardé à la SADC encore. Il y a
vous
une
vous
ouverture.
Vous avez dit, voilà, je vais encore retourner voir à la SADC.
J'ai un grand papier, une grande expérience. J'y retourne. Je suis encore shortlistée, présélectionnée. Parmi les cinq, j'y vais. Je parle de tout ce que j'ai fait aux affaires étrangères. J'ai participé aux réunions, aux négociations avec le M23, avec le CNDP, aux côtés du ministre. Beaucoup de réunions où des décisions, des grandes décisions devaient être prises. Et j'ai participé à ce programme et tout ça. J'ai passé mon interview en anglais. Mais finalement, je crois que c'est Dieu qui décide.
Hein. Vous aviez vraiment l'assurance que ce poste-là à la SADC, vous
l'aurez. C'était le mien.
Oui.
C'était vraiment mon poste à moi. Donc, je me préparais déjà à partir. J'ai préparé mes enfants, j'ai préparé mon mari déjà moralement au fait que j'allais bouger. Malheureusement, Dieu en a disposé autrement. Ça n'a pas donné. C'était vraiment une très, très, très grande déception. Je n'ai pas l'habitude de verser des larmes, mais là, j'avais pleuré.
C'était un coup dur pour vous.
Oui. J'ai dit, mais ce papier, il me sert à quoi? Pourquoi je suis allée 2 ans, j'ai laissé ma famille, tout le monde, et après je rentre, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? J'ai décidé de prendre du recul. Pas pour m'asseoir définitivement, mais pour me relancer, en fait. C'est ainsi qu'après les affaires étrangères, parce qu'il y a eu changement de gouvernement, je n'ai plus voulu continuer au cabinet. Ça m'a pris comme ça 2 ans. Mon mari a été élevé à des fonctions, hautes fonctions dans le pays. Et donc, j'ai eu beaucoup de travail chez moi. J'ai fait la maman.
Oui.
J'ai fait la ménagère. C'est très important.
Comment vous êtes sentie dans ce rôle, hein, pour une femme active qui était habituée à aller travailler tous les matins, à travailler jusqu'à pas d'heure? Là, pendant 2 ans, on se dit, bon, je vais consacrer ma vie à ma famille.
Coup de chapeau pour les mamans ménagères qui ne font que ça dans la vie. C'est beaucoup de stress. S'occuper des enfants, s'occuper du foyer, vous pouvez vous oublier vous-même. Pendant ces temps, j'ai aimé le fait que j'ai appris à redécouvrir mes enfants. J'ai appris à gérer les détails de chez moi, mais ça m'a appris à respecter davantage nos mères qui n'ont fait que ça. Et c'est un travail qui devrait en principe être rémunéré. Hein. Vraiment, c'est ingrat de ne pas penser à une rémunération pour... Les Américains appellent les femmes qui travaillent à la maison « home engineer », les ingénieurs de la maison.
Oui, oui.
On ne dit pas les ménagères, les ingénieurs de la maison. Les femmes qui ne travaillent pas sont des ingénieurs de la maison, c'est un travail à temps plein. Ça vous demande toutes les expertises du monde. Vous êtes économiste, vous êtes comptable, vous êtes médecin, vous êtes tout à la fois. C'est
pas un travail facile.
C'est fou.
On arrive en 2019, ça c'est encore très récent, et donc vous êtes nommé à la délégation générale de la francophonie, c'est très récent. Vous dites oui, j'accepte ou j'accepte pas. Est-ce que c'est le début d'une nouvelle histoire qui commence pour vous?
Exactement, exactement. Je me dis, oh voilà, je peux pouvoir faire autre chose. Oui, c'est une élévation. J'aime beaucoup le travail des journalistes. Les journalistes, comme on dit, la presse, c'est le quatrième pouvoir. Je suis fier d'être journaliste. Et je l'ai dit toujours, je le serai toujours. Hein. On est journaliste. On est journaliste pour la vie. Mais là, je me dis, Dieu m'a donné quelque chose de plus. C'est une opportunité qui nous est offerte. Et étant donné que nous allons, dans les mois qui suivent, abriter un grand événement, vous verrez que nous serons vraiment au cœur. L'actualité.
C'est justement les Jeux de la francophonie qui auront lieu ici à Kinshasa en 2021. On parle des Jeux de la francophonie, mais qu'est-ce que ça représente exactement? C'est quoi les Jeux de la francophonie?
Vous voyez, dans la francophonie, on parle culture, on partage la langue. Ce sont les pays qui ont le français en partage, qui sont membres de l'organisation. On y parle politique, mais on met plus d'accent sur la culture. Alors, à part le sommet, qui revêt un caractère politique, il y a également les Jeux. Dans les Jeux, il y a plusieurs domaines qui entrent en ligne des comptes. Vous avez l'art, la musique, les sports. On dit les Jeux, mais il y a tout ça. Il y a l'innovation technologique. On est à l'ère du numérique, donc il y a tous ces aspects qui sont pris en compte dans la thématique. Il y a la problématique de l'emploi. On parle de la jeunesse, on parle de la femme. Un thème très complexe, donc c'est l'occasion d'échanger, de réfléchir sur toute cette thématique qui fait en sorte que les pays qui ont les Français en partage se retrouvent, mais également l'occasion de les faire dans la gaieté. Vous avez un temps pour réfléchir, vous avez un temps pour partager l'art, partager la musique, partager la culture. Mais pour la RDC, il y a un enjeu. Quand vous organisez un événement de cette envergure, vous vous attendiez à ce que vous soyez un peu vu par le monde entier. L'occasion pour nous de vendre l'image du pays, d'attirer les investisseurs, d'arriver à faire entendre la voix de la République démocratique du Congo. Pour nous, c'est un grand travail à réaliser, un défi à relever en termes de visibilité. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont préféré qu'une ancienne journaliste tienne cette fonction-là, parce que j'aurais vraiment un travail de visibilité énorme à faire. Pas dans le cadre du jeu, parce que le jeu, c'est une organisation à part. Mais nous, en tant que DGF, nous sommes le point focal de l'OIF à Kinshasa. Donc, nous serons également dans l'organisation comme pièce maîtresse. Cet événement, c'est un défi que nous, la République démocratique du Congo, nous allons relever avec fierté. Nous en avons toujours eu l'habitude. Ce ne sera pas une première fois. Nous sommes un pays qui fait des miracles. Même en dernière minute.
Nous vous souhaitons en tout cas bonne chance. Nancy Odia, femme journaliste, vous étiez notre invitée pour le magazine Étoile. Je rappelle que vous avez été récemment nommée déléguée générale adjoint à la délégation générale à la francophonie. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci également à Thérèse Kankou qui a contribué à cette émission, ainsi qu'à Polydor Basunga qui en assurait la mise en onde. Était au micro Nana Bolojoa et Aléo Moto. On se retrouve avec vous la semaine prochaine.